Tout de suite, le journal Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le site du futur centre d'enfouissement de déchets radioactifs de Bure, c'est dans la Meuse, évacué ce matin par les gendarmes. Nous ne voulons plus qu'il y ait en France des lieux de non-droit, affirme le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Précision de Véronique Reverotte dans un instant. Le recours aux ordonnances pour faire passer la réforme de la SNCF, c'est une possibilité, déclare ce matin le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, pour qui il faut aller vite dans ce dossier. Et le président LR du Sénat, Gérard Larcher, parle de déni de démocratie parlementaire. Analyse de Frédéric Saïs. La réforme de la formation professionnelle. Les partenaires sociaux s'entendent sur un projet d'accord, mais il est jugé insuffisant par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui promet, elle, un big bang sur l'architecture du système. Explication de Catherine Pétillon. La grève des personnels d'Air France aujourd'hui. 50% des vols long courrier au départ de Paris seulement assurés. Pilotes, hôtesses, stewards, personnel au sol demandent une augmentation de 6% des salaires. Revendication déraisonnable pour la direction d'Air France. Commentaire de d'Isabelle Raymond dans cette édition. Et puis à l'étranger, les bombardements de la plaine de la Ghouta orientale par les forces de Damas qui continuent malgré les appels internationaux. Le Conseil de sécurité se réunit ce soir pour adopter sans doute un projet de résolution qui réclamerait un cessez-le-feu de 30 jours et qui permettrait peut-être l'accès donc des organisations humanitaires à cette zone. Dossier suivi par Valérie Crova, l'invité de la séquence interview, Sébastien Chenu, qui est porte-parole du Front National, avec qui on sera en direct depuis l'Assemblée nationale. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
On va reparler de la situation en Syrie et plus généralement d'intervention militaire, de droits humanitaires et de protection des populations avec notre invité, le juriste et géopolitologue Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, qui est l'un des co-auteurs d'un vaste dictionnaire de la guerre et de la paix, publié aux presses universitaires de France.
500 gendarmes donc ce matin pour investir le site du futur centre d'enfouissement de déchets radioactifs de Bure dans la Meuse, là où doit être installé, c'est à l'horizon 2027, un centre de stockage de ces déchets nucléaires qui ont des durées de vie très longues. Les militants antinucléaires qui l'occupaient ont donc été évacués. Il y a 15 personnes qui ont quitté les lieux après un contrôle d'identité. L'une d'elles a été interpellée. Véronique Reverotte, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que l'opération se poursuit? Est-elle terminée?
Alors, ce qui est en cours en ce moment, c'est l'assaut qui est donné parallèlement à la maison de la résistance de Bure. C'est une maison d'opposants installée dans le village même depuis des années. Plusieurs dizaines de gendarmes y sont entrés en force au motif de fait de flagrant délit de violence. Eh bien, une personne a été mise en garde à vue. Les gendarmes sont encore sur place. C'est un lieu aussi symbolique de l'opposition au projet d'enfouissement des déchets nucléaires CIGEO. Tout comme le bois, le jus. Il était donc un peu plus de 6h du matin quand environ 500 gendarmes mobiles ont commencé l'évacuation de ce bois, un bois d'environ 200 hectares. Il se trouve exactement à l'aplomb de ce que les occupants du bois appellent la future poubelle nucléaire de France ou futur cimetière radioactif, exactement à l'endroit d'où les déchets nucléaires les plus dangereux seraient acheminés, descendus 500 mètres sous terre pour y être enfoui dans 300 km de galerie pendant des milliers d'années. Ce qui n'est pas fait, puisque la demande de déclaration d'autorisation de création de ce site d'enfouissement a été repoussée à juin 2019. Alors au Bois-le-Jus, les gendarmes ont trouvé en fait une quinzaine de personnes qui ont réinvesti l'endroit. Le Bois-le-Jus avait déjà été occupé en 2016 pendant 3 semaines et déjà évacué pour sécuriser le site. Alors les promoteurs de CIGEO avaient tenté d'ériger un mur de béton de 2 mètres de haut pour protéger donc un futur chantier, mur mis à terre par les opposants qui s'y sont réinstallés. Ce matin, la préfète de la Meuse expliquait sur place que l'État n'avait fait ce matin qu'appliquer une décision de justice. L'occupation a été jugée illégale, fait l'objet aussi de recours. Les autorités disent avoir aussi eu vent de la construction d'une maison en dur au cœur du bois. Une personne interpellée également en garde à vue sur les 15 présentes. Certaines ont eu le temps de se percher dans des arbres pour retarder leur évacuation, mais c'est terminé. Un bulldozer est sur place pour faire disparaître toute trace d'occupation.
Alors, manifestement, le gouvernement veut éviter que se constitue une zone à défendre du type de celle de Notre-Dame-des-Landes.
Exactement. La logique gouvernementale, elle est exprimée sitôt l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes. C'est ce qui laissait effectivement apparaître une victoire des zadistes. Eh bien non, le Premier ministre Édouard Philippe avait alors affiché sa détermination à ne pas laisser s'enquister des ZAD, des zones à défendre. Le ministre de l'Intérieur n'a pas dit autre chose ce matin, Gérard Collomb.
Nous ne voulons plus qu'il y ait de lieux en France qui soient des lieux de non-droit et où donc l'on puisse s'installer en dehors de toute règle. Tout se fait dans l'ordre et l'application de la loi, donc il n'y a pas de difficulté fondamentale.
Sébastien Lecornu, secrétaire d'État au ministre de la Transition écologique, est attendu cet après-midi sur place. Un déplacement qui était dans son agenda, d'où la stupéfaction des associations qui s'opposent au projet CIGEO. Le secrétaire d'État a prévu de les rencontrer demain matin. Drôle de concertation, estime Corinne François de Burstop.
Oui, c'est absolument inattendu et sidérant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secrétaire d'État à l'environnement vient rendre visite pendant 2 jours sur le site de Bure. Il invite les opposants à les rencontrer. Et ce matin, à 6h du matin, expulsion du bois, c'est pas explicable. Et ça envoie un très très mauvais signal. C'est-à-dire que le gouvernement, en fait de concertation, utilise le passage en force, la force publique. C'est d'autant plus invraisemblable puisque le bois, le jus, fait l'objet de plusieurs recours. Les opposants ont démontré via la voie des tribunaux que la propriété du bois est contestée. Donc voilà, c'est d'autant plus inexplicable.
Alors des associations opposées au projet, le réseau Si Sortir du Nucléaire appelle à des rassemblements ce soir 18h devant toutes les préfectures de France. Ils invitent aussi les militants qui le peuvent à converger vers Bure. Leurs avocats aussi convergent vers Bure.
Merci beaucoup Véronique Roberotte. Le gouvernement avait entamé cette semaine des consultations autour de la réforme de la SNCF. Un rapport avait été rédigé, on s'en souvient, par l'ancien patron d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, et il avait été vécu comme une attaque par les syndicats de cheminots. Et bien ce matin, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, affirme que le recours aux ordonnances pour faire passer ce texte est bien une possibilité, car dit-il, il faut aller vite dans ce dossier. Premier à réagir ce matin dans la classe politique, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, qui affirme que si le Parlement n'est pas sollicité pour débattre d'un sujet aussi important pour l'aménagement du territoire, il y aura un déni de démocratie parlementaire, selon ces termes. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement peut-il être tenté, donc une nouvelle fois sur ce dossier SNCF très délicat apparemment, de passer en force?
Oui, quand le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement ne l'exclut pas, cela signifie sur un sujet aussi inflammable que la piste est sérieusement étudiée. Dans cette optique, il s'agirait de dupliquer le scénario de l'automne dernier avec la réforme du Code du travail, des ordonnances qui ont pour effet de raccourcir le temps de la décision politique et donc le temps de la potentielle mobilisation sociale. Vous savez que les cheminots ont annoncé une journée nationale pour le 22 mars prochain. Alors quand on dit raccourcir le temps législatif, ça n'est pas tout à fait exact. Par exemple, pour la réforme du marché du travail, les textes définitifs ont été publiés seulement au mois de février, au début du mois de février. Les dispositifs sur des sujets aussi complexes prennent par définition du temps. En revanche, avec les ordonnances, ce qui est pratique, c'est que le processus de rédaction du texte est moins visible et il occupe moins l'actualité. Ce ne sont pas de longues heures de débat au Parlement, ce ne sont pas des milliers d'amendements. C'est un vote des parlementaires au début et à la fin du processus. Et entre-temps, eh bien, l'attention publique se porte évidemment sur autre chose, ce qui a pour conséquence de limiter aussi par symétrie la caisse de résonance donnée aux mobilisations sociales. Alors cela dit, au-delà des considérations purement stratégiques, il est vrai que le calendrier est fortement contraint. La libéralisation du rail arrive partiellement à la fin de l'année 2018 et d'ici là, les projets de loi en tout domaine s'amoncellent rien que dans les prochains mois. La réforme de l'assurance chômage et de la formation dont on va parler, la loi sur les entreprises, la loi contre la fraude fiscale, mais aussi la révision constitutionnelle. Il y aura ensuite les lois bioéthiques. Ce sera également un angle d'argumentation du gouvernement qui tentera d'expliquer en quoi son action relève de la vitesse et non pas de la précipitation.
Merci beaucoup. Frédéric Saïs, effectivement, le gouvernement semble vouloir aller aussi vite et loin sur cette réforme dont vous parliez de la formation professionnelle. Les partenaires sociaux qui viennent de s'entendre sur un projet d'accord, mais il est jugé ce matin insuffisant par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui elle promet un Big Bang sur l'architecture du système donc de formation. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
On reprend un peu les deux temps de ce matin. Le premier temps, c'est cet accord annoncé dans la nuit par les partenaires sociaux.
Alors globalement, cet accord offre des droits supplémentaires à ceux qui souhaitent se former tout au long de leur vie professionnelle. Alors, quels sont les principaux changements? D'abord, plus de temps pour se former. Sur leur compte personnel de formation, le CPF, les actifs cumuleront 35 heures par an au lieu de 24 et dans la limite de 400 heures au lieu de 150 actuellement. Cela leur donnera accès à davantage de formations. Jusqu'à présent, il fallait choisir dans une liste contrainte établie par les partenaires sociaux. L'accord met fin à ce système. Par ailleurs, un financement est dédié au conseil en évolution professionnelle. C'est un accompagnement gratuit pour ceux qui veulent faire le point sur leur situation et l'objectif est que cela bénéficie bénéficie à 1 million de personnes par an. Enfin, pour faire coïncider l'offre de formation et les attentes des entreprises, les partenaires sociaux se sont entendus pour mettre en place une base de données sur les besoins en compétences actuelles et futures.
Voilà donc les contours de cet accord, mais qui satisfait donc les partenaires sociaux apparemment, mais qui ne satisfait pas la ministre. Elle estime que ça ne touche pas à la complexité du système, donc elle veut ce fameux Big Bang, elle veut que ce soit l'architecture elle-même qui soit remise en cause. De quoi parle-t-elle précisément ?
Alors pour faire entendre qu'il veut changer, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement ne lésine pas sur l'effet de répétition de ces métaphores. Il y a quelques semaines, l'apprentissage devait connaître sa révolution copernicienne. Cette fois, c'est le Big Bang. Et ici, le potentiel explosif se niche dans des détails, mais qui illustrent bien la volonté politique et les tensions qui s'annoncent. Car cet accord conclu par les partenaires sociaux ne répond pas à toutes les attentes formulées par le gouvernement dans sa feuille de route. Prenons un exemple parmi d'autres, mais qui l'illustre bien. Le compte personnel de formation reste libellé en heures, alors que Muriel Pénicaud, elle, le préférerait en euros. Alors ça changerait quoi ? Eh bien, ça permettrait à chacun de passer commande directement à un organisme de formation. L'accord maintient le rôle des OPCA, ces organismes de collecte gérés par les partenaires sociaux, alors que le document d'orientation le disait clairement, le souhait de l'exécutif est de mettre en place un droit à la formation à la main des individus, à chacun la charge de son propre parcours, dans une logique d'autonomie sans, je cite, d'intermédiaire obligatoire.
Alors cela illustre bien la méthode du gouvernement employée dans divers secteurs.
Oui, une fois encore, le gouvernement a invité les partenaires sociaux à discuter en amont de la loi qu'il prépare, mais on sent déjà qu'il pourrait aussi tout à fait passer outre l'accord trouvé. Rappelez-vous les récents remous quand le gouvernement a annoncé des arbitrages sur le financement de l'apprentissage en plein milieu de cette négociation sur l'accord sur la formation professionnelle, texte contenant lui-même toute une partie sur l'apprentissage et dont la discussion s'est trouvée de fait corsetée. Alors dans les jours qui viennent, le jeu des négociations va continuer. Sur l'assurance chômage qui reprend cet après-midi, certains syndicats laissent entendre qu'ils pourraient, avant de se prononcer, attendre de voir quels arbitrages la ministre rendra mardi prochain sur la formation. Mais derrière l'agitation de formules comme le Big Bang, ce que la ministre retiendra de cet accord montrera de quelle manière le gouvernement compte sécuriser les parcours, la place laissée au corps intermédiaire et l'esprit qui sera celui de la loi attendue au printemps.
Merci beaucoup Catherine Pétillon. On est en ligne avec l'invité de la séquence interview, Sébastien Chenu, qui est député Front National, porte-parole aussi du Front National. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Un petit mot de cette, on va dire, méthode globale du gouvernement qui semble être utilisée dans différents secteurs. On parle de Big Bang, on parle de... Il ne faut pas qu'il y ait de tabou, notamment, sur la transformation nécessaire. Et puis, d'un autre côté, certains politiques qui s'inquiètent de la manière dont parfois les choses se passent, parfois en force. Déni de démocratie, disait ce matin, par exemple, M. Larcher, à propos des éventuelles ordonnances sur la réforme du rail. Comment vous percevez cette méthode gouvernementale ? Est-ce que vous y voyez une unité de fonctionnement ?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une énorme gesticulation, si vous voulez, de ce gouvernement, et c'est le cas sur l'ensemble des projets de loi qui viennent. C'est le cas sur la réforme de la formation professionnelle, vous en avez parlé, sur le projet de loi asile immigration, on en a probablement parlé sur votre antenne, on en reparlera, mais c'est également le cas sur la réforme de la SNCF. Et cette gesticulation me fait dire que je pense qu'Emmanuel Macron a honte de ce qu'il fait. Il a honte d'être soumis à l'Union européenne et de déconstruire ce pays de façon si visible. Alors pour que ce soit un petit peu moins visible, eh bien il le fait par des voies, par des méthodes, les ordonnances en particulier, qui lui font faire l'économie du débat public que nécessitent tous ces sujets. Tous ces sujets doivent être débattus à l'Assemblée nationale avec la représentation nationale parce que ce sont des sujets d'avenir. Et Emmanuel Macron va devoir apprendre à respecter la représentation nationale, à respecter une opposition. Alors on sait bien que les députés de La République En Marche, en général, ils n'ont pas grand-chose à dire. Ils sont plutôt des bénis oui-oui et que, évidemment, eux, de toute façon, ils le voteront. Mais il ne peut pas redouter non seulement la mobilisation sociale dans le pays, mais le débat avec les représentants des pays. Nous représentons des millions de Français. 11 millions de Français à l'Assemblée nationale sont représentés par 7 députés du Front National. Et nous avons des choses à dire. Des choses à dire sur la SNCF, des choses à dire sur l'apprentissage et la formation professionnelle, des choses à dire sur la loi asile immigration. Et ce n'est pas en prenant des ordonnances, ce n'est pas en se soustrayant à ce débat qu'Emmanuel Macron réussira à convaincre les Français.
Vous parlez de gesticulation, quand on dit gesticulation, ça veut dire qu'on ne fait pas grand-chose en fait. Et puis après, vous nous dites qu'il est aux ordres de Bruxelles. Donc,
mais c'est vrai.
Qu'est-ce que c'est la vérité là-dedans ?
Mais parce que lorsque je je vois le projet de loi asile immigration, c'est non seulement un projet, d'ailleurs Gérard Collomb l'a dit lui-même, qui est dupliqué sur ce que demande Bruxelles, mais ça va pas très loin. En réalité, c'est une petite loi de police administrative sans autorité, sans fermeté, sans moyens. Le projet de loi de réforme de la SNCF, qui est en réalité la déconstruction du transport public dans notre pays, et un coup difficile porté à la ruralité, c'est également une suggestion de l'Union européenne. Donc en réalité, il applique une feuille de route, ça commence à se voir, et nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il l'applique, en tous les cas, qu'il la propose à la représentation nationale pour qu'on puisse en parler. Nous n'accepterons pas de voir notre pays se déconstruire, nous n'accepterons pas de voir la ruralité se faire sanctionner chaque fois davantage, et voir ce pays se faire métropoliser, que toutes les richesses soient concentrées dans les grandes métropoles. Nous réclamons ces débats, et ils sont bien légitimes.
Sébastien Chenu, merci. On vous retrouve donc dans quelques minutes pour la séquence interview. On parlera plus précisément de la situation dans votre parti, le Front National. Le gouvernement modifie le calendrier du Grand Paris Express et annonce un report de quelques années pour certaines lignes. Le supermétro devrait bien arriver à Clichy-Montfermeil en Seine-Saint-Denis en 2024, mais il n'atteindra le pôle scientifique de Saclay dans l'Essonne qu'en 2027. Et puis le tribunal administratif de Paris a annulé hier la fermeture de la circulation des voies sur berge sur la rive droite de la Seine. Anne Hidalgo, qui avait justifié cette piétonnisation par le souci d'améliorer la qualité et le cadre de vie des Parisiens, a répliqué en annonçant son intention de faire appel et de signer sans attendre un nouvel arrêté. Mais la préfecture de police fait savoir par un communiqué ce matin que l'aménagement tel qu'il avait été projeté ne pouvait se poursuivre en l'état. La grève des personnels d'Air France, il y a 50% des vols long courrier au départ de Paris seulement qui sont assurés. Pilotes, hôtesses, stewards, personnel au sol, c'est une rare unité dans la compagnie qui se mobilise. Ils veulent une augmentation de salaire général de 6%. C'est une revendication déraisonnable pour la direction. Isabelle Raymond, on est à l'heure des comptes à Air France qui s'améliore ses comptes. Les efforts fournis par les salariés doivent être récompensés, c'est ce que soutiennent en tout cas les syndicats.
Le personnel au sol, les hôtesses et stewards ou les pilotes, tous expriment la même exaspération. 15 000 postes supprimés en 8 ans, des efforts de productivité fournis et pas de reconnaissance à la clé. Voilà le sentiment général selon les syndicats. Surtout que le projet phare de la compagnie, June et ses vols à petit prix, se fait sans le personnel navigant maison au sein d'une filiale spécifique. Un affront de plus selon François Amand, commandant de bord et membre du syndicat Alter.
C'est une humiliation pour les salariés parce que ça signifie qu'en interne à la maison mère, celle dont on a célébré les 80 ans, on ne sait pas s'adapter, on ne sait pas faire d'efforts. Or, le vécu quotidien des salariés, quel qu'il soit, est le même. On ne reconnaît pas les efforts que nous avons su faire et que nous avons fait tous collectivement.
Et tous demandent une augmentation de l'ordre de 6%. Ce sera moins, même si augmentation générale il y a pour la première fois depuis 7 ans, argumente le patron d'Air France. Franck Terner insiste aussi sur l'accord d'intéressement au bon résultat de l'entreprise, mais ça s'arrêtera là.
6% d'augmentation de rémunération. Cela représente 240 millions d'euros. 40% du résultat d'Air France. Je pense que c'est déraisonnable et en tout état de cause, Air France n'en a pas les moyens.
Et la direction d'Air France ajoute que dans le même temps, aucun dividende ne sera versé aux actionnaires cette année encore.
La situation en Syrie, toujours à la une de l'actualité internationale, avec des bombardements de la plaine de la Ghouta orientale par les forces de Damas qui continuent malgré les très nombreux appels internationaux. Tout à l'heure, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit pour adopter sans doute une résolution qui pourrait réclamer donc un cessez-le-feu de 30 jours au moins pour permettre un accès humanitaire à la province. Cette résolution sera-t-elle effectivement votée? N'y aurait-il pas de veto? Et si oui, est-ce qu'elle aura vraiment un effet sur le terrain? Valérie Krova.
À la surprise générale, la Russie a demandé hier une réunion urgente du Conseil de sécurité pour parler de la situation dans la Ghouta. Une situation qualifiée, non sans cynisme, de complexe par l'ambassadeur russe à l'ONU qui a évoqué les terroristes qui pilonnent Damas, argument maintes fois utilisé par le régime syrien pour justifier ses opérations militaires depuis le début de la guerre en 2011. Pour autant, la Russie pourrait cette fois s'abstenir de voter la résolution demandant une trêve d'un mois, ce qui lui permettrait de ne pas désavouer son allié syrien tout en montrant qu'elle fait preuve de bonne volonté. Il faut savoir que la Russie a déjà utilisé par 9 fois son droit de veto sur la Syrie. Mais aujourd'hui, Moscou pourrait céder aux pressions internationales et se redonner par la même occasion de la marge vis-à-vis de l'Iran, dont l'influence n'a cessé de grandir en Syrie. Si la résolution était adoptée, elle permettrait permettrait à l'aide humanitaire d'entrer dans la Ruta et d'évacuer plusieurs centaines de personnes qui ont besoin d'être prises en charge médicalement. Pour ce qui est du reste de la population, elle serait alors suspendue au bon vouloir du régime qui pourrait être tenté de la garder sous sa coupe en attendant que des accords d'évacuation soient conclus avec les groupes de combattants rebelles de la Ruta, comme ce fut le cas à Alep lors de l'offensive menée fin 2016.
1h10 sur France Culture, on revient vers notre invité, donc en direct de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, porte-parole du Front National. Monsieur Chenu, Marion Maréchal-Le Pen va s'exprimer ce soir devant une conférence conservatrice, on va dire, aux États-Unis. Ça s'appelle le Conservative Political Action Conference, pour un événement annuel qui réunit en fait les principaux courants conservateurs américains. C'est une académie qui ambitionne d'être, dit-on, le terreau pour tous les courants de la droite. Et on parle d'un retour remarqué pour Madame Le Pen, pour Marion Maréchal-Le Pen. Est-ce que ce déplacement est minimisé, dit-on, par la garde rapprochée de Marine Le Pen, la présidente du parti? Est-ce que vous lui accordez une importance?
Ah, pas du tout. Moi, je crois que ce déplacement a une importance. Marion Maréchal est partie au moment des élections législatives. Elle est partie en bon terme avec le Front National pour mener un projet professionnel qui est celui qu'elle décrit dans les colonnes de Valeurs Actuelles, qui est celui qu'elle porte aujourd'hui aux États-Unis. Un projet dont nous aurons, nous, étant celles et ceux qui croyons encore en la nation, aurons besoin. C'est-à-dire, elle va participer à la victoire idéologique qui précède la victoire politique de nos idées demain. Donc, je pense que c'est important.
Vous savez ce qu'elle va dire dans son discours tout à l'heure?
Non, je l'ignore, mais je pense qu'elle va présenter son projet professionnel, cette école dont on manque probablement, cette école de formation en tous les cas, dont on manque probablement. Mais là encore, je pense que tout ce qui va dans notre sens nous va bien. Et donc, elle participe du combat que nous menons.
Anne Fauquemberg est à vos côtés, une question.
Sébastien Chenu, bonjour. Comment vous expliquez que Marine Le Pen n'ait jamais eu la faveur de cette réunion politique organisée par ce cénacle de conservateurs américains?
Je crois qu'à partir du moment où Marine Le Pen était candidate aux élections, c'était beaucoup plus difficile pour eux d'avoir à faire un choix qui était de fait partisan. Marion Maréchal n'étant pas dans une démarche de candidature à des élections, elle n'est pas sur le terrain électoral elle-même, elle s'est retirée de la bataille électorale elle-même. Je pense que c'est plus simple de venir, j'allais dire, un peu comme un esprit intellectuel, comme une contribution intellectuelle au débat et non pas comme celle d'une candidate aux élections. C'est bien ce qui différencie les choses.
Vous avez avancé sur la tête de liste des européennes, ça peut intéresser Marion Maréchal-Le Pen. La place est libre apparemment.
La place est libre, la place est ouverte. Je crois que Marion Maréchal-Le Pen, a indiqué, enfin je crois pas, j'en suis sûr, qu'elle n'était pas intéressée par l'idée de revenir en politique, notamment pour les élections européennes. Nous sommes en discussion avec un certain nombre de personnalités, qu'elles soient dans la maison. On a des talents, Louis Alliot, Gilbert Collard, Nicolas Bay, et puis à l'extérieur de la maison, où il y a des gens qui sont intéressés par l'idée de nous rejoindre. Et nous en rencontrons, je crois pouvoir le dire, chaque jour.
Alors ce n'est pas un retour en politique à proprement parler pour Marion Maréchal-Le Pen, à écouter ses proches, à écouter les cadres du FN, mais ça y ressemble quand même à y regarder de plus près. Un mensuel conservateur créé par son ancien attaché parlementaire, l'Incorrect, la création d'une académie aux États-Unis où pourront se former tous les futurs dirigeants de droite, de toutes les droites, elle le précise, Marion Maréchal-Le Pen, ça ressemble quand même à une rampe de lancement tout ça.
Écoutez, moi ce que je vous disais, c'est que tout ce qui participe du combat que nous menons nous va bien. Toutes les initiatives qui sont prises nous va bien. Marion Maréchal est liée, je crois, au moins effectivement à un mouvement. Ce mouvement, c'est le Front National, que Marine Le Pen est en train de refonder, de rénover. Et par conséquent, tout ce qui permettra d'organiser notre courant de pensée demain pour gagner nous va bien.
Marine Le Pen n'est-elle pas toutefois condamnée à être isolée à moyen terme au moins, et d'autant plus avec son père Jean-Marie, au passé sulfureux dont elle porte le nom, qui lui met des bâtons dans les roues avec ses mémoires qui vont sortir début mars? Elle n'est pas condamnée à l'isolement finalement?
Non, et d'ailleurs l'entreprise qu'elle fait de rénovation, de refondation du Front National montre qu'elle n'est pas dans une culture du déni. Marine Le Pen a fait un score historique. 35%, plus d'un Français sur 3, 11 millions de voix. Aujourd'hui, comment on fait pour passer de l'autre côté du chemin, pour conquérir celles et ceux qui nous font pas confiance? Alors, elle a décidé de faire ce gros travail qui est une remise en question de l'organisation, du programme, même peut-être du nom du Front National. Et donc, c'est je crois, la plus solide pour le faire.
Alors, renommer le parti, vous venez d'en parler, ça ne présente pas le risque de faire fuir le noyau militant? On les entend, les militants, ils parlent aux journalistes, ils le disent. Non, on n'a pas envie que le Front National change de nom.
Écoutez, d'abord, il y a une consultation qui est faite. Donc on verra ce que cette consultation dit. Et mon petit doigt me dit, puisqu'on va arriver sur 27 000 questionnaires dépouillés, ils sont en train d'être dépouillés actuellement, mon petit doigt me dit qu'il y aura une majorité pour changer de nom. Donc c'est une consultation. Mais il y a une volonté chez nous qui est de gagner les élections. Et les militants, les adhérents veulent gagner parce qu'ils veulent voir appliquer leurs idées. Enfin, demain. Et par conséquent, ils sont prêts. Peut-être à sacrifier le nom, mais pas les idées, évidemment.
Merci beaucoup, Sébastien Chenu, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Anne Fauquemberg, ainsi qu'à Nathalie Lopez. Le rapport d'information sur le viol remis à l'Assemblée nationale, le document émet des recommandations pour lutter contre l'ampleur inquiétante des viols en France et préconise notamment d'allonger le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, qui est actuellement de 20 ans. Et puis, il propose aussi que pour un mineur de moins de 15 ans, toute relation sexuelle avec un majeur soit considérée comme non consentie. Météo France annonce une vague de froid qui va durer plusieurs jours, qui va gagner l'ensemble du pays et qui aura aujourd'hui donc des conséquences directes, notamment sur la moitié nord, où il y aura quand même du soleil, un ciel plus couvert au sud, température 2 à 11 degrés, édition réalisée avec Brice Garcia, prochain journal 18h, Stanislas Vazak.